Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de Belfast Maine. Pour ce retour très anticipé au Centre Pompidou. Ne cherchez pas trop à comprendre, sinon ça serait trop long à vous expliquer. Non, mais en tout cas, on remercie beaucoup le Centre Pompidou qui a rendu possible cette exception pour notamment des voyages. Je m'explique quand même des films très longs qui avaient un petit peu de mal à trouver leur place dans notre nouveau lieu. Donc demain, bien sûr, c'est un grand événement de la rétrospective avec la projection unique dans le cadre de la rétro de Near Death, donc un très très long film de près de 6 heures, mais ça sera la seule projection dans le cadre de la rétro. Et donc voilà, merci au Centre Pompidou et à sa direction d'avoir permis ce week-end spécial au Centre Pompidou de retour ici. Merci à Lucien Castin-Taylor, que je vous demande d'accueillir. Merci d'être venu de Barcelone pour présenter Belfast Maine. Donc je vais aller très très vite, c'est pour vous laisser plus de temps que moi pour présenter Belfast Maine. Donc vous êtes anthropologue, cinéaste, vous avez réalisé notamment Sweetgrass, puis avec Verena Paravel, Léviathan, qui a vibré sur cet écran, hein, au moins plusieurs fois, je pense. Je cite aussi Caniba, et je sais que Caniba, c'est un film qui avait fait beaucoup, beaucoup rire Fred Wiseman, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà. Donc, Lucien, je vous laisse la parole pour présenter Belfast Maine. Merci beaucoup.
Merci à toi, Arnaud, pour cette invitation de dire quelques mots avant le film. Et merci d'être venu, bien sûr. Je vous présente mes excuses parce que je parle français très mal, mais si jamais vous ne me comprenez pas, vous me dites. J'ai 2-3 choses à dire, mais je n'ai pas confiance, donc j'ai écrit quelques aides-mémoires, quelques notes. J'avais vu ce film une fois, quand c'est sorti. Dans le Colorado, où j'avais mon premier boulot après que j'ai fini ma thèse, donc en 1999 ou en 2000, donc à la fin du siècle, en 16, en pellicule. Et j'oublie si c'était moi qui l'avais invité, on ne se connaissait pas. Et c'est que maintenant que je rencontre, que c'est la première fois qu'on s'est rencontré, et on est devenus amis depuis, plutôt à Paris, où j'ai passé un peu de temps. Pas à Cambridge, à Boston, où on vit tous les deux, normalement, bizarrement. Mais en tout cas, j'ai rencontré Fred à Colorado pendant quelques jours. On a montré donc Belfast Maine. Et je me souviens qu'il y avait un souci de projection. Donc c'était en 16, comme je vous ai dit, et la pellicule a brûlé. Donc c'était un désastre. C'était un étudiant qui l'a projeté et donc on a cherché un autre projecteur et moi je ne suis pas projectionniste, mais je ne voulais pas qu'un autre étudiant subisse le même enjeu, donc c'est moi qui l'a projeté. Donc j'ai vu le film à travers le hublot de la salle de projection, donc j'ai pas vraiment vu le film jusqu'à il y a quelques jours. Et je m'en souviens qu'une chose pendant le débat. Je crois que c'était la première question, ou peut-être la deuxième question, d'un jeune étudiant de 18 ans, de 19 ans, qui a dit « Pourquoi il y a autant de carrefours routiers ?»« Why are there so many intersections in this film ?» Et Fred, il a répondu très vite, il a dit « Do you not have intersections in Colorado ?»« Vous n'avez pas les carrefours en Colorado ?» Donc, c'est tellement Fred. Donc, le pauvre élève était complètement humilié, il voulait disparaître au-dessus de sa chaise. Mais je comprends exactement la résistance de la part de Fred de surinterpréter ses propres films. Depuis, comme je vous ai dit, on est devenus amis, et à plusieurs reprises, Fred m'a dit comme ça. Enfin, il s'est plaint à moi que les journalistes et les critiques lui posent jamais les questions, lui écrivent jamais sur la structure de ses films, qui n'ont rien à dire sur la structure des films. Donc, j'ai pas tout lu, j'ai pas lu tout ce qui a été écrit sur l'œuvre de Fred. Donc, c'est pas si c'est le cas ou pas. Mais chaque fois qu'il m'a dit, je dis putain, moi j'ai pas grand-chose à dire sur la structure de tes films non plus. Ils sont tellement longs et d'une certaine façon, et c'est une force, c'est pas une critique, un peu aléatoire. Dans le sens que c'est la poésie du quotidien où il suit. Et c'est bizarre parce qu'il passe pas plus que entre 3 et 6 semaines en tournage normalement, mais des mois et des mois et des mois en montage. Mais pour moi, la structure de ces films n'est jamais évidente. Donc, chaque fois qu'il me dit, je me sens aussi con que les journalistes et les critiques apparemment qui écrivent sur ces films. Mais est-ce qu'il y a une structure de ce film? Ou est-ce qu'il y a un argument caché dans la structure. Le film commence avec le port de Belfast, Maine, j'allais dire New Bedford, de Belfast, Maine, et avec un petit bateau de pêcheurs de langoustes qui sortent en mer. Historiquement, Belfast, Maine a grandi autour du port avec quelques usines de volailles que je crois qu'on ne voit pas dans le film, sauf si j'oublie. Qui était au cœur de son économie et de son histoire. La plupart du film, la couleur, la lumière, c'est l'automnal, c'est pastoral, c'est chaleureux, c'est chaud, c'est très belle, la lumière. C'est très chaud et c'est très belle. Mais le film se termine dans un cimetière de la ville, au-dessus d'un ciel qui fait peur, très noir, noirci, tempestueux un peu, de mémoire, très nuageux en tout cas. Et pour moi, c'était comme si le film est un portrait funèbre d'une communauté de petites villes, un mode de vie à sa fin, dans son agonie. Mais je suis sûr que si Fred était là aujourd'hui, il serait complètement en désaccord avec moi, véhément d'ailleurs. Donc, il est surtout résistant d'interpréter ce film symboliquement ou d'un mode allégorique. Mais je crois qu'il y a 2 scènes. Quand j'ai revu le film l'autre jour, je n'étais pas dans une salle de projection, j'étais chez moi, où il nous montre sa main, ça se dit ? Il nous montre ses cartes, sa main. Le premier, c'est pendant les répétitions d'une pièce de théâtre par Arthur Miller, Death of a Salesman, L'amour d'un commis voyageur, je crois, où Willie demande à son boss, son chef, Howard, s'il peut être réembauché parce qu'il n'a plus de boulot. Et Howard dit non, il n'a pas de boulot, il n'a pas d'argent, c'est impossible. Et Willie se lamente ou déplore le manque de personnalité dans le monde contemporain, par lequel il veut dire, je crois, le déclin de l'amitié, de justice, de loyauté, d'une forme intérieure de capitalisme plus douce, plus gentille, qui est en train d'expirer, d'être rapporté, d'expirer en Belfast, Maine. Un monde de petites entreprises familiales et une communauté face à face où les gens prenaient soin les uns des autres. Pour moi, c'est un cri, un gémissement de désespoir, pour le film aussi. La deuxième scène, dont on a vu un petit extrait dans la bande-annonce, se déroule dans un lycée où le professeur donne aux élèves son interprétation de Moby Dick par Melville. Et le prof, il soutient que Moby Dick est représenté pour lui une révolution en littérature parce que Moby Dick élève effectivement un ouvrier américain, un petit pêcheur de Nantucket, Ahab, qu'il transforme en héros tragique et le met sur le même piédestal que les héros royaux tels que King Lear, Loi Lear, ou Oedipus Rex, Oedipe Roi. Mais ce que le prof ne dit pas pendant le film, c'est que Ahab était fou, il était brutal, il était violent, qui souffrait des délires de grandeur, de sa propre importance cosmique, et que c'était un cauchemar de travailler pour lui. Et qu'il a une espèce de volonté à mort, à la fois pour lui et pour tous les gens autour de lui. Le prof parle après du dernier livre de Melville, The Confidence Man. Je ne connais pas le titre en français, je suis désolé. Il soutient que le livre révèle, montre que The American Dream est une sham, est faux, une comédie, et aussi un scam, une arnaque de l'escroquerie. Et ça, pour moi, quand j'ai revu le film il y a 2-3 jours, c'était une lecture peut-être précipitée par la dernière élection qui vient de se passer aux États-Unis. Peut-être que je suis devenu très binaire et mannequin et moraliste et allégorique, mais pour moi, c'est vraiment le sujet réel du film. Et le film, je m'en souviens vaguement que c'était reçu à l'époque par la plupart des critiques comme un film romantique, un portrait élégiaque d'une communauté américaine pauvre, sans prétention, composée en majorité de la classe ouvrière. Mais la plupart des gens qu'on voit dans ce film me paraissaient, il y a quelques jours, comme les gens qui souffrent énormément, pour la plupart silencieusement, qui sont malades ou blessés physiquement ou psychologiquement. Pour moi, dans ce film, aujourd'hui, le American Dream me paraît plus comme un American Nightmare. Malgré tous les nombreux gestes d'attention, de soins, de l'humanité qu'on voit tout au long du film. Pour moi, Belfast Maine, c'est vraiment le film gothique ultime de New Bedford. Et je vous laisse là. Je suis désolé, je suis sûr que si j'étais là, il me détruirait. Il aurait complètement une autre interprétation. Il aurait dit, vas-y, vous n'avez pas de film gothique ailleurs. Bonne séance. Et appréciez surtout la scène dans l'usine des sardines, où les femmes découpent les têtes, les queues des sardines avec une vitesse qui te laisse bouche bée, qui est stupéfiant, qui est surhumain. Bonne séance.
Merci Lucien. Merci beaucoup. Bonne séance.